Bonjour, vous êtes sur Radio Fuse. Cette année, nous sommes 9 élèves à participer à l'atelier média du Collège de Redouné. Cet atelier est un projet qu'on réalise grâce à Madame Lomont, professeure documentaliste du Collège et aux médias locaux.
Durant cette émission, vous découvrirez l'univers du Collège, ses nouveautés, ses activités comme la troupe théâtre ou bien le concours d'éloquence, et aussi l'opinion des élèves à travers des micro-trottoirs. Des sujets variés qui nous tiennent à cœur, comme l'allemand, une langue pleine de stéréotypes, mais fantastique.
Et comme la curiosité n'est pas un vilain défaut, on va aussi vous parler du Québec et de lecture.
Avez-vous déjà entendu parler du concours d'éloquence au collège? La deuxième édition a eu lieu jeudi 20 mars dernier, et 8 élèves se sont affrontés, à coups de discours bien sûr. Les candidats ont été sélectionnés parmi les élèves des classes de 3e 1 et de 3e 6 de Madame Mill et de Madame Le Gall, deux professeurs de français qui les ont préparés pour le concours.
C'est Ninon qui a obtenu la première place juste avant Dana. Et Margot est arrivée en 3e position. Le coup de cœur du public a été attribué à Dana. Nous avons pu interroger deux participants un peu avant le grand jour. Tout d'abord, écoutons Dana.
Comment te sens-tu deux jours avant le concours?
Très très stressée. Depuis le début de la semaine, j'ai vraiment une grosse boule au ventre. Mais j'ai hâte aussi.
Est-ce que tu peux nous dire quel sujet d'éloquence t'as choisi?
J'ai parlé des préjugés et du jugement. Et je vais en développer en parlant un peu de ma famille et des autres aussi.
Comment tu t'es préparée?
Alors d'abord j'ai écrit mon discours, puis après je l'ai montré à ma famille qui m'a donné des points d'amélioration. J'ai aussi été aidée par un professeur de théâtre.
Monsieur Olivier Costa?
Oui, c'est okay. Ça. Et Madame Mill, bien sûr, qui m'a corrigée.
Pourquoi tu as décidé de participer au concours?
Déjà, on a tous en classe organisé, ou plutôt écrit un discours. On est donc passé sur le début de notre discours de 1 minute 30. Et c'est mes camarades qui ont choisi 4 personnes de notre classe.
Et combien dure ton texte?
Mon texte dure à peu près 5 minutes. Honnêtement, je suis vraiment, vraiment très, très anxieuse, mais... j'adore parler, j'adore ouvrir les yeux sur des choses qu'on ne voit pas forcément. Et je pense que c'est un bon exercice pour l'oral blanc, etc.
Et pourquoi ce sujet en particulier?
Parce que c'est le sujet qui a fait le plus de dégâts, je pense, dans la vie de ma famille et dans la mienne. Je pense m'orienter soit dans le journalisme, soit dans le droit. Je suis encore dans le doute, mais... En tout cas, ce que je veux, c'est parler et rencontrer des personnes.
Merci Dana. C'est au tour de Gaspard de se prêter au jeu de l'interview.
Bonjour Gaspard, pourrais-tu te présenter s'il te plaît?
Donc je suis un élève de 3e au Collège Le Redouné. J'ai fait ce concours d'éloquence avec Madame Mill, une professeure du Collège Le Redouné.
Qu'est-ce que tu as choisi comme sujet d'éloquence?
J'ai choisi comme sujet le gaspillage alimentaire. Parce que en fait, j'ai eu la chance de pouvoir aller en Afrique. Et j'étais témoin de gaspillage. Du coup, j'ai choisi ce sujet pour le concours d'éloquence.
Comment tu t'es préparé et qu'est-ce qui t'a aidé?
On a écrit le discours tous ensemble dans la classe. Et ensuite, la classe, elle a voté 4 champions. Donc moi, j'étais choisi comme champion. Je m'entraîne à la maison à réciter mon discours. Je l'apprends. J'ai été aidé de... Madame Mill et de Olivier Costa pour écrire et pour m'entraîner à réciter le discours.
Comment tu te sens deux jours avant le concours?
Je suis un peu stressé parce que je vais passer devant beaucoup de monde et j'ai jamais fait ça, mais ça va.
Est-ce que tu espères gagner?
Bien sûr, j'espère gagner, mais c'est pas grave si je ne gagne pas parce que les autres méritent comme moi de gagner.
Tu penses que t'as tes chances?
Je suis un peu timide, donc je sais pas si je vais peut-être stresser sur la scène, mais... Je pense que oui, j'ai des chances quand même.
Merci pour cette interview. Hein. Et bonne chance hein, pour le concours.
Merci.
C'est un sacré défi et une sacrée performance pour ces élèves. Parler, s'exprimer. D'ailleurs, qu'en est-il des langues étrangères au collège? Anglais, espagnol, italien ou allemand? Il y a le choix. Aujourd'hui, nous voulons mettre en avant l'allemand avec Irène et Roxane.
Bonjour à tous, je m'appelle Irène et je fais allemand depuis 3 ans au collège Le Redouné.
Je m'appelle Roxane et moi aussi du coup je fais allemand au collège Le Redouné.
Certes le mot Streichholzelstelchen est imprononçable. Certes le mot Der Donaudampfschifffahrtsgesellschaftskapitän en un mot est beaucoup trop long, soyons d'accord. Mais avec l'option allemand LV2 à prendre dès la 6e au collège Le Redouné, Monsieur Divry saura vous faire maîtriser la langue en moins de 4 ans.
Pour les perdus et les petits curieux, voici un petit rappel. Quand les sixièmes arrivent au collège, ils ont 3 choix linguistiques. Anglais LV1, langue principale, seul l'anglais sera appris en sixième, et espagnol ou italien sera appris l'année suivante en cinquième.
Un autre choix est possible, les bilangues, bilangue allemand ou espagnol. C'est une option à prendre dès la sixième, en plus dans l'anglais.
Par exemple, si un futur sixième a l'intention de faire espagnol au collège, il aura le choix de commencer la langue en sixième ou en cinquième. Malheureusement, pour l'allemand, il n'y a pas de deuxième chance. Autrement dit, quand on arrive au collège en sixième, c'est maintenant ou jamais. Mais il ne faut pas regretter votre choix.
Pas de panique, on est là pour vous. Mais quelle mouche a piqué le bon Dieu quand il a créé la Terre ? Quelle idée de placer la France plus près de l'Espagne ? À cause de lui, les futurs sixièmes prennent plus souvent espagnol. Mais pour lutter contre le destin, notre cher Monsieur Divry passe chaque année dans les écoles des alentours pour rallier les CM2 à notre cause.
Bon, fini la rigolade et les histoires de religion. Malgré les multiples efforts de Monsieur Divry, on se retrouve la plupart du temps avec une bonne douzaine d'élèves par classe et pas plus. Il faut aussi reconnaître que ce nombre restreint permet de travailler plus vite, avec dynamisme et interaction, ce qui est plus avantageux pour nous comparé aux classes d'espagnol où le nombre d'élèves peut monter jusqu'à 30.
Maintenant, nous allons vous lister les pour et les contre de l'option allemand. D'abord, nous faisons d'inoubliables échanges avec nos correspondants. Cette immersion totale dans une famille allemande améliore fortement notre compréhension orale et nous aide à parler plus simplement et plus spontanément. Seule l'option allemand propose des voyages linguistiques. Et oui, choisissez-nous.
Petite parenthèse. Comme nous faisons allemand depuis 3 ans au collège Le Redouné, nous allons vous faire part de notre expérience. Durant cet échange, nous avons visité Francfort et son marché de Noël. Nous sommes allés au collège, à la patinoire, et surtout nous avons pu nouer de formidables amitiés franco-allemandes en discutant ensemble pour faire connaissance. Nous avons également découvert une culture, paysages, traditions, nourriture et quotidien. Tout était différent. Si vous prenez la bilangue allemand, vous pourrez à votre tour découvrir l'Allemagne et ses spécialités.
Miam miam! Mais cet apprentissage commence en 6e avec 3 heures de plus sur l'emploi du temps. Aïe aïe aïe, ça pique un peu dès la 6e.
Au-delà de l'apprentissage de la langue, Monsieur Divry nous apprend des méthodes de travail utiles pour la suite de nos études.
Et entre nous, il n'y a pas vraiment de secret dans la réussite. Donc si on apprend la méthode de travail régulier, on apprend vite.
Et en 3 ans à peine, on connaît suffisamment de vocabulaire pour parler couramment la langue. Et en plus, l'enseignement est ludique et en tout cas moins scolaire que dans certaines matières.
Enfin, si on a le cerveau assez développé pour compter jusqu'à 4, on remarque qu'il y a plus de raisons de choisir l'allemand plutôt que de ne pas prendre l'option. Convaincu ? Bah alors, qu'est-ce que vous attendez ?
Guten Morgen ! Alors, bonjour aux auditeurs de Radio Fuse. Bonjour Irène. Je suis Monsieur Divry, Herr Divry, professeur d'allemand au Collège Le Redouné et également au lycée Charles Gide.
Comment êtes-vous venu à l'enseignement de l'allemand ?
Alors, plusieurs choses à dire pour répondre à ta question. Tout d'abord, des rencontres avec en CM2, hein, donc quand j'avais 10 ans, 10-11 ans. Monsieur Serre, un professeur d'allemand, était venu nous faire une initiation. Ensuite, des rencontres, des échanges, des rencontres avec des familles allemandes dans le pays. Et puis, une rencontre très forte à l'université avec ma professeure de linguistique, Madame Dalmas.
Que diriez-vous aux futurs élèves pour qu'ils choisissent l'allemand au collège, en quelques mots ?
Alors en quelques mots, bah écoute, la dynamique de la classe, hein, c'est une classe où on fait beaucoup de projets, avec une pédagogie que j'espère ludique, donc avec une bonne ambiance, actuellement d'assez petits groupes, donc ce qui est motivant. Du coup, je peux m'occuper des élèves de manière plus rapprochée. Je rencontre mes premiers élèves à l'école primaire ou en sixième. Ils peuvent faire 1m30, 1m40. Et puis, quand ils arrivent très rapidement en première et terminale, c'est moi qui suis obligé de lever les yeux. Voilà, et donc un rapport un peu différent peut-être des autres professeurs, parce que je les ai suivis la plupart du temps à travers les années, donc on se connaît bien. Et donc, on a une relation de proximité.
Maintenant, est-ce que des anciens élèves à vous sont devenus professeurs d'allemand ou encore ont vécu en Allemagne ou ont eu un parcours professionnel en rapport avec l'Allemagne ?
Alors, plusieurs ont étudié l'allemand à l'université. Et donc, on passait des concours. Là, par exemple, j'ai une élève qui va passer donc très prochainement le concours de l'ESIT. C'est l'école de traduction anglais-allemand à Paris. Sinon, plusieurs sont allés travailler en Allemagne, à Berlin. Je les ai même revus là-bas. C'est vrai que ça fait chaud au cœur.
Pouvez-vous nous donner un mot allemand hyper difficile à prononcer ?
C'est le mot écureuil, Eichhörnchen.
Et un mot intraduisible en français ?
Gemütlich. Alors, Gemütlich, on ne peut pas vraiment le traduire, puisqu'en fait, c'est un mot qui renvoie à une ambiance particulière qu'on ne retrouve qu'en Allemagne.
Une expression amusante en allemand.
En français, on dit « j'ai un chat dans la gorge ». En allemand, on dit « j'ai une grenouille dans la gorge ». Ich habe einen Frosch im Hals.
Maintenant, nous allons écouter Andrea et Célian qui vont nous parler de la troupe théâtre au collège.
Saviez-vous qu'il y a une troupe théâtre au collège Lourdounet ? En effet, une douzaine d'élèves se rassemblent tous les jeudis entre midi et deux. Cette troupe théâtre est animée par le comédien Olivier Costa avec Madame Le Gall et Madame Hill, qui sont professeurs de français. Cette année, la troupe a un programme de représentation plutôt chargé. Après, les élèves comédiens participeront le 26 et 27 mai prochain à l'accueil des futurs 6e. Et en fin d'année, il vous faudra retenir la date du vendredi 13 juin pour le spectacle de la troupe.
Andrea et moi faisons partie de cette troupe théâtre. On adore ça. Pour nous, le théâtre permet de se retrouver en groupe, de se faire des amis, d'écouter les autres. On trouve aussi que faire la rencontre d'un comédien est incroyable. Cela nous permet aussi de nous dépasser et de braver notre timidité. Madame Hill, qui encadre la troupe théâtre, a eu la gentillesse de répondre à nos questions. Bonjour.
Bonjour Célian.
Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît ?
Alors, je suis Madame Hill, je travaille au collège Lourdounet, je suis professeure de français et je suis arrivée au collège en 2012. Et j'ai la chance, depuis 2 ans, de m'occuper avec Madame Le Gall et le comédien Olivier Costa de la troupe théâtre.
Quand a été créée la troupe théâtre du collège ?
La troupe théâtre donc a été créée il y a 2 ans. Donc, l'an dernier, on était un petit peu à notre coup d'essai. Et nous avons choisi de poursuivre notre aventure théâtrale cette année. Donc 2 ans d'existence pour notre troupe théâtre.
Et elle fonctionne très bien. Comment vous est venue l'idée de cette troupe ?
Au fond, je crois que c'est une idée qu'on avait depuis très longtemps, plus qu'une idée, une envie, avec Madame Le Gall. Et nous avons eu la chance de rencontrer Olivier Costa, le comédien avec lequel donc, nous travaillons. On a eu envie de dire pourquoi on ne créerait pas un moment où un petit groupe d'élèves de 5e ou de 4e ou de 3e viendrait s'épanouir sur les planches entre midi et deux. Voilà, vraiment une parenthèse théâtrale avec le plaisir de partager des moments autour du théâtre, plaisir de la mise en scène, de la mise en voix. L'idée qui nous semblait importante dans cette troupe théâtre, c'est que nous, les adultes, on puisse également intervenir et faire avec vous.
Quels sont les bienfaits ou les atouts du théâtre pour les élèves ?
Ils sont très nombreux. C'est très riche, le théâtre. Je dirais que la première idée qui me vient à l'esprit, c'est la cohésion de groupe, le plaisir de vivre une aventure ensemble, développer évidemment des capacités d'expression, d'expressivité, la mise en scène, la rencontre avec le comédien aussi, qui est incroyable. Découvrir un artiste, découvrir un métier, différents aspects d'ailleurs aussi du métier, puisque les élèves assistent aussi au décor, quand Olivier Costa emmène les lumières à l'installation, la prise de son aussi parfois, puisqu'on a déjà aussi fait de petits films, créer des amitiés aussi. Le plaisir de monter un spectacle, de vivre cette aventure. On a joué il n'y a pas longtemps quelques extraits d'ailleurs au collège en soirée. Voilà, c'est fabuleux, c'est se confronter à un public.
Pouvez-vous nous en dire plus sur le spectacle de fin d'année ?
Ah ! On a la chance de pouvoir jouer le vendredi 13 juin au collège. Un spectacle sur le thème des héros. C'est un cabaret héroïque qui se présentera sous la forme de tableaux des tableaux qui prennent vie. Et je vous invite à venir découvrir ce spectacle qui aura lieu donc au collège, puisque l'idée était d'investir le collège, puisqu'on est la troupe du collège, plutôt que de choisir un autre lieu de spectacle, faire vivre le collège différemment.
Ben, merci d'avoir répondu à ces questions.
Que pensent les élèves de leur vie au collège et de leur vie d'ado ? Maxime et moi-même, Yann, sommes allés dans la cour de récréation pour interroger quelques élèves sur les activités au collège en dehors des cours. Voici leurs réponses.
Comment crée-t-il au collège, comme activité au collège ?
Plus d'heures de récréation.
Pour moi, il manque de rien. C'est parfait.
Une piscine.
Plus de sport à proposer au collège.
La natation.
Du tennis.
Peut-être un peu plus de matériel pour les trucs comme l'athlétisme, mais sinon ça va.
En gym, il y a beaucoup de matériel, mais il en manque quand même un petit peu.
Il y a beaucoup de choses intéressantes à faire, et je trouve que c'est bien comme ça.
Quelle matière voudrez-vous ajouter ?
Une matière pour explorer la nature.
De la poterie.
C'est un peu dur comme question. Parce que toutes les matières sont bien, donc... Par contre, pour les sixièmes, ça serait bien s'ils rajouteraient un peu de techno pour toute l'année, parce que nous, les sixièmes, quand on a techno 6 mois, même pas, donc ça serait bien si on aurait un peu plus de techno dans l'année.
Que voudriez-vous changer dans l'environnement du collège ?
Rien.
Bon.
Je trouve que dans la cour, il n'y a pas beaucoup de choses. Peut-être il pourrait y avoir plus de tables de tennis ou des ballons pour jouer.
Ben, la balle aux prisonniers, c'est vrai que ça serait bien qu'il y ait plusieurs jours.
Et comme plat à la cantine ?
Des sushis.
McDo.
Qu'il y ait plus de desserts en pâtisserie.
Peut-être un petit peu plus de pizza.
Le truc, c'est qu'on mange souvent de frites, mais on mange jamais de burgers, c'est pour ça aussi. Donc ça serait bien que parfois on mange des burgers, mais pas tout le temps, bien sûr.
De son côté, Raphaël a remarqué des changements au collège.
De drôles de vélos, un piano, mais que se trame-t-il au collège Lourdes-Dounay ? Vous avez peut-être remarqué, comme moi, que le hall du collège se transformait petit à petit. La principale, Madame Laurent Raz, m'a éclairée sur le sujet. Au départ, c'est un projet construit par la vie scolaire qui s'appelle Hall de vie, bulle de bien-être. On peut déjà profiter du piano, de la boîte à livres et des vélos pupitres. Le projet se développera au fil du temps avec une zone zen avec des canapés confortables, des plaids et des casques avec de la musique douce. Une zone lecture avec des sièges confortables et une bibliothèque. Une zone des artistes où on peut dessiner ou faire des activités calmes d'art plastique. Et enfin, la zone des jeux de société où on peut jouer aux jeux de société entre amis. Tout ce matériel permettra aux élèves de faire autre chose que de travailler pendant la pause méridienne. Mais pour pouvoir les utiliser, il faudra s'inscrire à la vie scolaire. L'objectif est que tous les élèves trouvent leur place au collège pendant leur temps libre. C'est la même démarche entreprise au CDI par Madame Lomont, notre professeur documentaliste. Depuis plusieurs semaines, il y a quelques petits changements au CDI. Pour en savoir plus, écoutons l'interview de Madame Lomont. Bonjour Madame Lomont, j'ai remarqué qu'il y avait des nouveautés au CDI, comme par exemple des tabourets, des casques anti-bruit, des règles pour les dyslexiques. Et pourquoi vous avez décidé d'acheter ce matériel ?
J'ai pu acheter ce matériel avec l'accord de la direction parce que je voulais permettre aux élèves d'avoir plus de confort au CDI, du confort qui répond à leurs besoins. Il y en a qui ont besoin de se concentrer, il y en a qui ont besoin d'être au calme, de gérer leurs émotions. Donc je me suis renseignée sur le matériel qui était intéressant. Et ça a permis d'offrir depuis quelques semaines ces objets que les élèves utilisent petit à petit.
Et ces objets, ils ont quelles utilités ?
Alors, ils ont des utilités différentes. Les casques anti-bruit, c'est plutôt pour s'isoler quand on doit apprendre une leçon ou quand il y a trop d'animation au CDI parfois et on voudrait lire dans le calme. Ensuite, il y a les cornets d'écoute. C'est comme on appelle ça des chuchoteurs. C'est comme un téléphone. Les élèves chuchotent, par exemple, pour apprendre leurs verbes irréguliers en anglais et leur voix est amplifiée et ils apprennent d'autant mieux. Il y a également les tabourets, qui sont des tabourets oscillants, c'est-à-dire que les élèves sont toujours dynamiques dessus, et on peut très bien imaginer que parce que une partie de, la partie du bas du corps bouge, eh bien, ils sont tout dédiés à apprendre avec la partie supérieure de leur corps. Et il y a également les règles pour les dyslexiques, tu l'as évoqué, c'est pour faciliter la lecture de tout le monde. Et les règles loupes.
Il s'en passe des choses au collège, vous ne trouvez pas ? À présent, parlons de lecture. Jivan, Raphaël et Maxime vous présentent les chroniques de romans qu'ils ont lus et plus ou moins appréciés. Commençons par Jivan.
Bonjour, je suis Jivan, je vais vous présenter « Silence, on ira dit » de Christophe Léon, un auteur qui a commencé la littérature adulte en 2002, avant de se lancer dans la littérature jeunesse en 2006. Donc ce livre, c'est un roman réaliste, son auteur a d'ailleurs peut-être vu dans le futur, car il a été écrit en 2009, c'est-à-dire 2 ans avant la catastrophe de Fukushima. Donc ce livre, c'est l'histoire de Sven et de sa sœur Siloé, qui habitent dans un petit village où se trouve une centrale nucléaire. Sven, il a pris l'habitude de se baigner dans un lac situé en amont de la centrale, à l'insu de ses parents qui y travaillent. Et quand un jour il perd subitement tous ses cheveux, il refuse d'avouer au médecin qu'il s'est baigné dans ce lac alors que c'était interdit. Un jour, alors qu'il rentre de sa baignade du jour, Sven tombe dans un trou, une champignonnière qu'il n'avait pas vue. Il doit absolument sortir de cette cavité pour aller chercher sa sœur qui est chez sa nounou. Mais tout à coup, boum, une explosion. Puissante, si puissante qu'elle arrive à soulever Sven qui sort enfin de son trou. Lorsqu'il ne voit plus la centrale, Sven comprend qu'il ne reverra plus jamais ses parents. Sa première idée, courir chercher Siloé chez sa nounou. Quand il voit qu'elle est vivante, il décide de se cacher dans la cave de la maison en ruine afin que les militaires en combinaison blanche qui parcourent désormais le village ne les remarquent pas. Donc je vais vous donner mon honnête avis sur ce livre, je l'ai moyennement apprécié dans l'ensemble. Le début est très dynamique et les personnages ont un caractère bien à eux, mais malheureusement, après l'explosion de la centrale, il ne se passe plus grand-chose. Les actions qui étaient jusque-là rapides sont maintenant assez plates et courtes, mais ce qui m'a le plus déçu, c'est surtout la fin. Je trouve qu'elle n'est pas à la hauteur du reste du livre. Dommage, car c'est un livre plutôt intéressant dans l'ensemble que je recommande tout de même, surtout si vous aimez les centrales nucléaires.
C'est maintenant au tour de Raphaël de s'exprimer.
Bonjour, je suis Raphaël. Je vais vous présenter le roman La pâtisserie Bliss, écrit par Catherine Littlewood. L'auteure est américaine. Elle est à la fois comédienne, écrivaine et bien évidemment, elle adore les pâtisseries françaises. Maintenant, je vais vous présenter le livre. C'est l'histoire de la petite pâtisserie tenue par la famille Bliss. À 10 ans, Rose Bliss découvre que les gâteaux que font ses parents sont magiques. Depuis ce jour, elle n'a plus qu'une idée en tête. Préparer des gâteaux magiques, elle aussi. Malheureusement, ses parents ne veulent pas la laisser cuisiner ses gâteaux. Mais un jour, les parents de Rose partent une semaine. C'est l'occasion pour Rose de se lancer dans la pâtisserie magique. Tout ne sera pas aussi simple. Les muffins et les cookies qu'elle prépare ont des effets inattendus sur les gens qui les mangent. Et surtout, il y a cette tante qui débarque et qui est bien mystérieuse. Je vous conseille fortement ce livre. Pour ses rebondissements à fin de chapitre, pour l'action, la fantaisie et le suspense qui donnent envie de lire le deuxième tome.
Et maintenant, Maxime nous présente une dernière chronique littéraire.
Je vais vous présenter le roman « Celle qui marche la nuit » de Delphine Berthelon. Tout d'abord, je vais vous parler de l'autrice et de son parcours, Delphine Berthelon. Elle est née à Lyon en 1972. Dès l'âge de 6 ans, elle commence à écrire et elle remporte un concours de poésie. Modeste, certes, mais cela prouve déjà ses talents d'écrivaine. Elle se destine au professorat avant de se consacrer à l'écriture. Elle publie son premier roman en 1998, Les dentelles de la mort. Il faut attendre 9 ans avant de pouvoir lire son deuxième roman, Cabine commune. Elle enchaîne l'année suivante avec son troisième roman, Twist. C'est toujours aujourd'hui son plus grand succès. Elle écrit parallèlement des scénarios pour la télévision, comme pour le téléfilm Yes We Can, pour arrondir ses fins de mois. Mais Delphine Berthelon, c'est aussi une femme ayant des combats. En effet, elle a rejoint des mouvements comme Paye ton auteur ou encore Auteur en colère pour assurer l'avenir des écrivains. Une cause qui lui tient à cœur puisqu'elle-même a témoigné de la précarité de sa vie d'écrivaine. Un de ses livres a retenu mon attention. Il s'agit du roman Celle qui marche la nuit. C'est l'histoire de Malo, un adolescent de 15 ans qui part de Paris pour emménager dans le sud de la France, à Cabrières, un petit village à quelques kilomètres d'ici. Malheureusement, Malo ne se fait pas à sa nouvelle vie. Il se sent seul, éloigné de son meilleur ami et ne supporte pas le calme de la campagne. Heureusement, il rencontre un jour Lily, la factrice du village dont il tombe secrètement amoureux. Malo commence à s'inquiéter pour sa petite sœur Jeanne lorsqu'il l'entend parler toute seule à une certaine Pauline. Il pense tout d'abord à une amie imaginaire, puis se rend compte très rapidement que cette fameuse Pauline est plus qu'une simple invention de sa petite sœur. Malo alors se confie à Lily, mais la réponse de la factrice n'était pas celle qu'il avait imaginée. Pauline est la fille de la bonne des anciens propriétaires. Elle a disparu il y a 30 ans suite à des inondations dans la même maison où vit actuellement Malo. Son corps n'a jamais été retrouvé, et lorsque Malo rentre chez lui, il découvre une cassette où l'on entend Pauline, effrayée, comme traumatisée. Plus aucun doute, le fantôme de Pauline communiquait avec la sœur de Malo. C'est alors que l'adolescent décide de partir à sa recherche et connaître enfin la vérité. Voici ce que j'ai pensé du livre. Tout d'abord, j'ai beaucoup aimé. On rentre dans l'histoire dès les premières pages. L'intrigue principale du livre est passionnante, avec de nombreux rebondissements, et nous nous attachons facilement au personnage. On est plongé dans une atmosphère sombre, sûrement inspirée par Stephen King, puisque Delphine Bertolon est une fan du travail de l'auteur. En commençant ce livre, j'ai eu peur d'une histoire remplie de clichés tels que l'histoire d'amour impossible entre un adolescent et une fille de 21 ans, ou encore la thématique du fantôme qui hante et terrorise la famille. Mais le livre ne tombe pas dedans grâce à la subtilité de son écriture. Mon conseil, foncez l'acheter le plus rapidement possible. Après vous avoir parlé du collège, explorons l'actualité internationale. À l'aube des élections provinciales québécoises et des menaces d'annexion du Canada par les États-Unis, un sujet revient sur la table, très sérieux et plus actuel que jamais. Jivan et moi, Maxime, nous avons décidé de vous parler de l'indépendance du Québec. Après deux référendums et la remontée du parti indépendantiste dans les sondages, le Québec peut-il encore devenir indépendant? Rester canadien ou être indépendant, que veulent vraiment les Québécois?
Mais avant tout, un petit point historique. Quand Christophe Colomb découvre l'Amérique en 1492, toutes les puissances européennes veulent leur part du gâteau. La France ne déroge pas à la règle et commande plusieurs expéditions au célèbre aventurier Jacques Cartier. Le 24 juillet 1534, Cartier débarque enfin sur des terres qui seront appelées plus tard Canada. Il découvre ainsi le fleuve qui fera de ce territoire un axe de pouvoir majeur pour la France, le Saint-Laurent. Et c'est la Compagnie de la Nouvelle-France nouvellement créée qui va gérer ce nouveau territoire. La Nouvelle-France prospère grâce au commerce de fourrures et la ville de Québec est fondée en 1608.
Nous sommes désormais en 1754 et les Anglais se sont installés à côté du Québec. Ils convoitent le monopole de la fourrure que détient la Nouvelle-France. Et c'est le début de la guerre de 7 ans. Les Anglais annexent presque la totalité du Québec. Le 10 février 1763, le traité de Paris donne la Nouvelle-France à la Grande-Bretagne.
On avance encore dans le temps, nous sommes maintenant en 1931 et le Canada devient officiellement indépendant. Et le Québec est maintenant une province canadienne. Sur le papier, mais pas vraiment dans le cœur. Car malgré l'épreuve du temps, les Québécois ne souhaitent toujours pas être assimilés canadiens. À cette époque, le français n'était même pas qu'aux langues officielles.
Comment résister alors? Les Québécois choisissent la révolution tranquille. Ils manifestent en masse pour demander plus de reconnaissance et de droits au gouvernement canadien. Et le souverainisme québécois progresse de plus en plus. Ainsi, le Parti québécois, le parti indépendantiste, remporte les élections en 1976. Le Parti québécois organise un référendum sur l'indépendance en 1980. Le non l'emporte avec 60% des voix. Le deuxième référendum, lancé en 1995 par le Parti québécois de nouveau, est encore un échec. Pourquoi le Parti québécois est revenu en force? En fait, les Québécois, pour vous faire simple, sont insatisfaits des gouvernements, qu'ils soient canadiens ou québécois. Cette désapprobation est un danger pour les fédéralistes, ceux qui souhaitent rester sous l'autorité canadienne. En effet, ils ne représentent qu'un Québécois sur cinq, ce qui est très peu. L'ancien Premier ministre canadien, Justin Trudeau, vient tout juste de laisser sa place à Marc Carney, qui devra réconcilier les Québécois avec les Canadiens. Mais c'est sans compter les multiples scandales économiques qui entachent le mandat du Premier ministre québécois, François Legault. Une mission ardue attend ces deux premiers ministres. Réconcilier et écouter Québécois et Canadiens. Alors, est-ce que l'indépendance du Québec est-elle possible? Seul l'avenir nous le dira.
Les élections provinciales québécoises auront lieu en 2026. Le Parti québécois est à l'heure actuelle en première place dans les sondages pour ces élections, avec 30% des intentions de vote du jamais vu. Mais selon un autre sondage, 51% des Québécois pensent que l'indépendance du Québec est une idée dépassée. Mais dans ce cas-là, Comment expliquer le fait que le non à l'indépendance soit 59% dans les sondages, alors même que les souverainistes soient plus nombreux que les fédéralistes? Eh bien, c'est plutôt simple. Actuellement, les Québécois ne pensent pas que l'indépendance serait une bonne idée, surtout face aux menaces d'annexion du Canada par Donald Trump, le président des États-Unis. C'est une question de contexte. Et surtout, le Canada vit une crise politique majeure. Les sujets de mécontentement sont nombreux, l'inflation, la crise du logement et des services publics, ou encore les taxes de douane avec les États-Unis. Dans ce contexte d'union du peuple canadien, l'indépendance du Québec serait donc une mauvaise idée.
Nous terminons avec un dernier micro-trottoir sur le thème des réseaux sociaux. Sur quels réseaux sociaux vont les élèves? Sont-ils libres d'y aller comme ils veulent? Ou encore, ont-ils déjà eu des problèmes? Écoutons leurs réponses.
Possédez-vous des réseaux sociaux? Si oui, lesquels?
Oui, TikTok, Snapchat, Instagram.
Pareil, mais YouTube, Instagram, Snapchat, Twitter.
Juste YouTube.
Pourquoi te sers-tu de ces réseaux sociaux?
Des fois je m'ennuie donc je vais sur TikTok et pour Snapchat c'est pour parler avec ma famille.
Bah, moi Snapchat c'est pour parler des fois avec mes cousins, mes cousines, s'appeler. TikTok ça me sert un peu quand je cherche des trucs à faire, je peux taper dans la barre et ça me sort des trucs.
Et moi je regarde YouTube pour me divertir.
Utilisez-vous votre téléphone la nuit?
Quelques fois oui.
Non.
Oui, un peu.
Votre famille a-t-elle mis en place des contrôles parentaux?
Non.
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 Est-ce qu'on vous a déjà embêté sur des réseaux sociaux?
Je crois.
Moi, non.
Moi non plus.
Avez-vous déjà eu accès à des contenus plutôt limites pour votre âge?
Dans le thème gore, oui.
Ouais, c'est bon.
Non. Moi non plus.
Et dernière question, à votre avis, que faisaient les jeunes de votre âge quand les smartphones et les réseaux sociaux n'existaient pas?
Ils allaient jouer au parc, ils goûtaient tous ensemble avec leurs copains, ils s'invitaient et tout. Il y en avait qui jouaient aux Barbies et aux poupées. Voilà.
Bah, ils allaient dehors, ils allaient aider leurs parents des fois.
Moi je pense qu'ils allaient faire des activités avec leurs parents, comme la chasse ou la pêche.
Nous remercions Radio Fuse qui nous a permis de faire cette émission. Et Madame Fringant comme Monsieur Quillez, qui nous ont accompagnés tout le long du projet. Nous remercions aussi Madame Lomont, la professeure documentaliste, qui a organisé l'atelier média.